Merci beaucoup. Prenons place. Je voudrais d'abord vous rassurer que ce qu'on commence, on veut vraiment le terminer. Et donc, cette série qui a été demandée par beaucoup dans la communauté sur la vie de l'Esprit en nous et la dimension qu'il apporte en dons et en fruits, nous allons poursuivre dès la semaine prochaine. Il nous a semblé, la semaine passée, l'espoir était prêt pour continuer, mais comme c'était les vacances, il y a pas mal d'absence, on veut que la majorité de la communauté en profite, donc on continuera ça la semaine prochaine. Aujourd'hui, ce que je voudrais faire avec vous, c'est, je vous l'avais dit en été, quand le Seigneur a mis le doigt sur un domaine où il voulait vraiment nous voir grandir, que ça allait être un thème, non pas qu'on allait aborder une fois en septembre, et puis voilà, puis y revenir, mais qu'on allait y revenir ponctuellement parce que nous avons besoin de développer cette mentalité. Et donc, de temps en temps, ça fait déjà quelques mois que je suis pas revenu sur cette dimension-là, mais donc aujourd'hui j'aimerais aller un peu plus loin, veiller à ce que ces choses s'installent en nous. Si vous n'avez pas une bonne mémoire, vous vous demandez, mais de quoi est-ce qu'il parle? Alors, on va y venir, on va pas l'indiquer, on va pas le montrer tout de suite. Alors, on aime mettre l'accent, et c'est bien, c'est juste, sur notre acquis en Jésus-Christ. Si, aujourd'hui, il revient, on rentre dans la gloire en tant que l'épouse de Jésus-Christ, pour une éternité avec lui, on verra le grand je suis, waouh, on est vraiment pardonné. On est déjà rendu saint. On a déjà un tel héritage. La vie chrétienne, c'est quelque part juste commencer à jouir de l'héritage et le faire partager aux autres. Ça, c'est la vie chrétienne. On est déjà pleinement aimé. Quand l'apôtre Paul écrit cette circulaire à Éphèse, il peut pas s'empêcher de dire, mais béni soit Dieu qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Et il accumule. Il y a que Paul qui peut faire ça. Hein. 14 versets, c'est une seule phrase, une cascade de bénédictions. C'est notre acquis. Il y a déjà cette plénitude. Il est tout et en tous. On n'est pas des misérables. Même si peut-être parfois il y a des choses qui vont pas dans nos vies, dans notre corps, on est déjà tellement comblé en Jésus-Christ. Pierre n'avait pas peur en écrivant à des frères et sœurs dispersés un peu partout dans il y a une guêpe? Et dans mes cheveux? Ah, elle voit clair, hein? Ça va, elle est partie? Voilà. Je vais prendre autorité. Un Belzébul, c'est bien aussi le prince des mouches. Non, pas des guêpes. Bon, merci Michel. Ah oui, quand il y a une taille de guêpe. Non, plutôt une... Elle est où? Elle est derrière moi. Voilà. Ok. Voilà. Ça va vous tenir en éveil, ça. Ça va vous tenir en éveil. C'est quand même pas la période, hein. Enfin, bref. Il a fait bon, hein. Ouais, ok. Donc, Michel, tu me tiens au courant. De toute façon, je le sentirai.
T'es pas allergique, moi.
Pas dans la demi-heure, non. Bon. On disait donc, qu'est-ce qu'on disait? Oui, ça, on le sait. Donc, oui, voilà. Il écrivait à ces chrétiens dispersés, persécutés, mais grâce à l'œuvre de Jésus, vous êtes gardés par la main puissante de Dieu, vous êtes déjà ressuscités, vous tressaillez d'allégresse, même si vous ne le voyez pas. Et vous attendez ce jour. Ça, c'est notre acquis. Mais, j'aimerais nous dire, et c'est là où le Seigneur mettait le doigt pendant l'été, c'est que nous vivons tout cela, toute cette réalité, au beau milieu d'un combat sur terre. Alors, quand j'ai vu Daniel mettre cette image-là, peut-être les plus jeunes ne savent pas de quoi il est question, c'est les charlots, hein, c'est ça? Non? Oui? Je me dis, comment on dit? Les bidas, ok. Je me dis, oui, tout compte fait, j'aurais peut-être pas choisi celle-là, mais parfois je me dis, l'Église est un peu bidas, quoi. Dans le sens que, on n'est pas vraiment conscient. qu'on est vraiment engagé dans un combat cosmique. Que nous en ayons conscience ou pas, nous sommes vraiment dans un combat. Bien sûr, la vie n'est pas qu'un combat. D'accord. D'accord. Mais la vie spirituelle, elle est un combat. Elle est un vrai combat. Tous les jours, en tant que disciples de Jésus-Christ, nous sommes confrontés à un système de valeurs, à ce que la Bible appelle le monde, un système de valeurs qui n'est pas le nôtre. Je suis en combat contre mes propres désirs, ma nature humaine. Et on est tellement parfois désinvolte avec... J'ai l'impression parfois que les chrétiens disent « Oh ben, ça va, c'est un désir personnel. Mais tous mes désirs ne sont pas bons. Il y a une guerre en moi. Il y a vraiment un ennemi qui cherche à éteindre l'Église, à neutraliser ta vie. Et j'ai l'impression parfois qu'on est tellement aveugle, inconscient, les bidasses, quoi. Ce n'est pas la mentalité du peuple de Dieu de se dire que, oui, la grâce est là, oui, l'amour de Dieu est là, oui, nous sommes en route vers le ciel, mais nous vivons tous là dans un contexte de guerre, d'opposition, où nous avons des armes réelles, une autorité réelle, tout ce qu'il faut pour vaincre. Mais ça nécessite de notre part une demeurance dans le Seigneur et une telle discipline, une telle hygiène de vie, une telle mentalité. Et j'ai donné pour titre à cette interpellation du Seigneur, développer une mentalité militaire. Alors je sais que le mot militaire, de toute façon, c'est un langage imagé. Mais derrière cette image, c'est l'idée d'une mentalité déterminée, volontaire, engagée. Prêt à aller jusqu'au bout, prêt à souffrir, à endurer. Jésus, les apôtres n'ont cessé de dire, tous ceux qui vont vouloir vivre pieusement, qui vont le marcher à ma suite, ils vont subir des choses difficiles. Rien que notre propre chair. Hein, hier, je prenais cet exemple, vous vous souvenez, dans le roman de Jules Verne, ce canon qui voyage dans le navire en pleine tempête, qui était décroché et qui risque de faire éclater la coque du bateau. Et ils descendent pour essayer de le neutraliser. Mais il y a en nous la capacité de tellement faire de dégâts. Et je vois parfois les chrétiens ont tellement à l'aise avec soi-même, quoi. Tellement à l'aise. Pas l'impression que on doit, comme Paul dit, je traite durement mon corps. Je traite durement mon, je mets ma vieille nature à mort. Je me méfie de la philosophie du monde, pas la création, mais tout cet ensemble de ce système qui était construit, ces valeurs, cette philosophie. Qui n'ont rien à voir avec les valeurs d'en haut. Il y a vraiment place pour un combat. Alors avant de rentrer vraiment dans notre étape suivante, je notais que je crois que le problème est que la plupart des chrétiens n'en sont pas convaincus. Quand on regarde nos priorités et la désinvolture vis-à-vis de certaines questions spirituelles, je crois qu'on se rend compte que l'Église montre souvent que nous nous croyons en temps de paix. Et pas de guerre. Rares sont ceux parmi nous qui sommes conscients que nous sommes engagés dans une guerre qui est plus grave que celle 14-18, 40-45, plus traumatisante encore que celle de Syrie. Je crois que trop peu parmi nous estiment que notre propre chair, le monde et Satan, sont des ennemis bien pires que n'importe quel adversaire terrestre. On est trop à l'aise avec ça. Alors, ça veut pas dire qu'on doit vivre comme des traumatisés, comme des phobiques. Non, mais l'inverse, non plus. Tant qu'on est sur la terre, on restera en combat. Alors, j'avais choisi trois textes, un peu comme indicatifs à cette série, on va les lire, et puis, pour celui qui nous conduira dans la méditation, après je lirai par la suite. On va d'abord lire ce texte, Dominique, si tu veux les lire pour nous.
2 Corinthiens 10. Si en effet nous vivons dans la réalité humaine, nous ne combattons pas de façon purement humaine. En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes grâce à Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu. Et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. Éphésiens 6. Enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. 2 Timothée 2. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Aucun soldat en service ne s'embarrasse des affaires de la vie courante s'il veut plaire à celui qui l'a recruté. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas lutté en respectant les règles. Le cultivateur qui travaille dur doit être le premier à récolter les fruits. Comprends ce que je dis, et que le Seigneur te donne en effet de l'intelligence en toutes choses.
Ce texte peut parfois paraître tellement étrange, n'est-ce pas? Ça, c'est dans la Bible, souffre avec moi, combat le bon combat. Je crois que beaucoup de nos stratégies, les plans qu'on peut mettre en place, toutes sortes de domaines de la vie de l'Église, ils ne tiennent pas la route, ils seront balayés par la culture ambiante. Si nous ne développons pas la culture du royaume, cette mentalité guerrière, déterminée, violente, forte, toutes nos petites stratégies, tous nos petits plans ne tiendront pas. On a vraiment besoin d'investir. Et l'un des grands moyens pour développer une culture, je pense que c'est la répétition. Quand je répète les choses différemment, je prends conscience de l'abondance de ce sujet. Alors, on doit, en Jésus-Christ, nous, on ne doit pas le faire à partir des tranchées, en disant, oh là là, vivement que ça soit fini, que je rentre au ciel, et me faire tout petit. Hein. Vous connaissez un pasteur qui disait à un de ses chrétiens, ça fait quand même longtemps que je ne te vois plus là. Tu ne te vois plus dans notre armée. Non, non, moi je suis un agent secret. Ah non, on n'est pas des... On peut envisager le combat spirituel pas comme des sauterelles. Hein? Israël, devant les Cananéens, dit « Oh mais non, non, on n'a aucune chance !» Ils ont des villes fortifiées, il y a des Anakim, il y a des géants, mais nous, on ne doit pas voir ça comme ça. Nous, on joue de la clarinette et la ville tombe. Parce que le Christ est en nous, je peux écraser ma chair, vraiment, parce qu'il est là en moi. Parce qu'au plus profond de moi, il y a une nouvelle nature qui est là. Tu t'imagines, il y a un moteur de Ferrari dans ta deux chevaux. Par rapport au monde, nous pouvons renouveler nos pensées pour installer les valeurs du royaume. Je peux détecter les mensonges. C'est fou ça. Ce que Salomon a eu comme sagesse, mais j'ai envie de dire, par rapport à ce que l'Église peut avoir, c'est de la gnognotte. C'était quand même pas mal, hein. Je vous pique volontairement, mais Jacques dit, mais si vous manquez de sagesse, demandez à Dieu, il va la donner. On peut avoir une telle culture du royaume. Et en même temps, face à l'ennemi, Paul dit, attention, il manœuvre. Il manœuvre. Il cherche vraiment. Mais vous avez une armure. Vous pouvez le faire fuir. Imaginez ça. Moi, je crois qu'on doit aller dans une période où l'Église à Charleroi sera tellement forte, on va le faire fuir. Alors que si souvent, il rit. Ok. Donc, on doit continuer à installer cette culture en nous. Je voudrais commenter rapidement un texte qui, par le passé, je l'ai déjà fait, mais je crois qu'il fait partie des fondamentaux. Vous savez, même Jésus, durant son ministère, alors qu'il ne pouvait pas encore tout comprendre sur ce qu'il allait accomplir, si souvent, les gens le suivaient en foule, et il se retournait pour rappeler les conditions pour être disciple. Tu veux me suivre? Ok. Sache que ça sera à telle condition. Et pour nous qui le sommes déjà, c'est un bon rappel des fondamentaux. Voilà comment ça marche dans la boîte. Voilà le règlement d'ordre intérieur. On peut s'en être écarté, mais on revient. Sache en tout cas que si tu es disciple, c'est pas à ta guise. Hein. Avec Jésus, il n'y a pas de syndicat. Hein. Voilà les conditions pour rentrer. Alors c'est pas comme un certain contrat d'assurance, c'est en bas de page, où c'est illisible. C'était très clair. Hein. C'est incroyable quand tu lis l'évangile de voir le nombre de fois où Jésus dit, mais il se retourne. Ah, vous voulez être mes disciples? Ok, super. Mais voilà comment ça va marcher. Et pour nous, Église, on a besoin régulièrement de s'arrêter et de se rappeler et de se positionner. On redresse le tir. J'aime bien cette image. Quand on conduisait pas, on s'imaginait que dans les lignes droites, ben le chauffeur, il pouvait faire son sandwich, papoter, parce que c'est une ligne droite. Non, on sait très bien que sans arrêt, même dans une ligne droite, on est toujours en train de toucher le volant pour que la voiture continue tout droit. Et je crois que dans la vie chrétienne, c'est comme ça. Paul dit, c'est pas que j'ai atteint la perfection, mais je cours. Je continue à garder les mains sur le volant. Alors on n'est pas arrivé. Je vous lis ce texte. Oui, vous voulez bien? Bon, il est pas facile, hein. Mais j'ai besoin de l'entendre. Et je voudrais vraiment que on développe cette mentalité où ces textes-là, on dit, Abby, ah, chouette, ça c'est bien, ça parce que ça va nous maintenir là, dans l'arène. On peut pas manger que de la crème fraîche, hein. Oh, la grâce, son amour, et c'est extraordinaire, hein. Oui? Mais on a aussi besoin que Jésus nous dise, allez, paye le prix, là. Luc 14, verset 25. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi, alors, c'est le texte de la seconde 21. Je l'apprécie beaucoup. Je l'apprécie beaucoup. Il aurait dû la rester plus littéral. Sans me préférer, littéralement, s'il ne hait pas, je vais vous l'expliquer après, hein, s'il ne hait pas, mais on comprend que l'idée, c'est sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. En effet, si l'un de vous veut construire une tour, il s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Autrement, si après avoir posé les fondations, il ne peut pas la terminer, tous ceux qui le verront se mettront à se moquer de lui en disant « cet homme a commencé à construire et il n'a même pas su le finir. » De même, si un roi part en guerre contre un autre roi, il s'assied d'abord pour examiner s'il peut avec 10 000 hommes affronter celui qui vient l'attaquer avec 20 000 hommes. Si ce n'est pas le cas, alors que l'autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, aucun de vous, à moins de renoncer à tout ce qu'il possède, ne peut être mon disciple. Le sel est une bonne chose. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Waouh! Je voudrais d'abord vraiment nous mettre à l'aise. Jésus ne dit pas cela pour exclure. Il veut que les gens le suivent comme disciples. Il veut nous sauver. Il veut nous donner l'éternité avec lui. Il veut nous donner une vie qui en vaut la peine. Mais j'aimerais nous dire, pas n'importe comment. Et ça, c'est le grand péril de l'Église. Je viens avec mes conditions. Vous allez dire, pas seulement de l'Église, mais au temps de Jésus, on voit tellement de gens qui sont venus. Je vais te suivre, Jésus. Et puis c'est intéressant. Mais permets-moi. Voilà mon règlement d'ordre intérieur. Et chaque fois, Jésus doit corriger. Et je voudrais nous dire que cette charte, ces fondamentaux du royaume, ils sont bons. Ils sont bons. Ça, c'est la vie. La vie est qu'un grand V. Suivre Jésus comme ça, même si ça peut être coûteux, c'est bon. On va expérimenter des choses extraordinaires avec Dieu. Mais à ces conditions. Et je dois lutter contre ma chair qui a toujours envie de dire, ouais, mais bon, Alors, regardons un peu plus près ce que Jésus nous dit. Il veut que nous comprenions que être disciple, c'est quelque chose de sérieux. C'est pas que le dimanche matin. C'est pas l'ambiance. C'est quelque chose qui, c'est ma vie qui passe dans la broyeuse Jésus pour devenir Jésus. C'est tellement sérieux. C'est tellement sérieux. Ça engage toute ma vie. Comme dans un mariage. Tu dis pas à ton conjoint, écoute, ok, pour le mercredi soir, samedi matin, si ça se passe bien en fonction des matchs, peut-être le dimanche après-midi. C'est toute ta vie que tu donnes. Toute ta vie. On fait compte commun. Moi, j'aimais faire ça dès le départ. J'étais étudiant. Mais comme ça, je l'habituais à partager. Bon, et j'avais quand même des allocations majorées. Hein. Comme étudiant, mauvaise langue, comme étudiant. Bon. Jésus voit cette foule. Il y avait des badauds. Des spectateurs, quoi. Mais il y avait des gens de bonne volonté aussi. Et ils voulaient me suivre. Trois verbes. Haïr. Littéralement, si tu ne hais pas ton père, ta mère, ta femme, tes enfants, je m'étonne qu'il n'ait pas mis ta belle-mère. Parce que ça serait peut-être... Bon, okay. Alors, on se dit, Jésus, attends, tu n'as pas bien étudié ton texte, là. Ces gens sont là pour toi. Gagne-les. On est en train de monter une super affaire, là. Tu vas les décourager. Alors, comprenons bien qu'il ne s'agit pas pour nous de le lire au sens littéral. Un peu avant, dans l'évangile de Luc, Jésus disait « Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent ». Il ne va pas dire l'inverse, il ne va pas demander de haïr ceux qu'on aime le plus. L'un des 10 commandements disait « Honore ton père et ta mère ». Jésus ne pourrait pas dire maintenant l'inverse. Qu'est-ce que Jésus veut dire ? Tu dois haïr ton père, ta mère. Alors, je l'ai déjà dit, mais pour ceux qui nous rejoignent, on comprend qu'il y a une petite astuce grammaticale. Alors Jésus parlait pas français, il parlait un dialecte hébraïque, il parlait l'araméen. Et dans l'araméen, il n'y a pas de comparatif. Je peux pas dire, j'aime plus les choux de Bruxelles que les chicons. Hein? Même si tu n'aimes pas les deux. Hein? Tu peux pas le dire. Tu dois dire, ouah, j'adore les choux de Bruxelles! Et donc, Jésus, les Hébreux devaient utiliser le superlatif. Je hais ma famille parce que je t'aime toi. On comprend bien que l'idée c'est je te préfère. Oui, je les aime, c'est clair, et je dois les aimer, et même mes ennemis. Mais par rapport à ce que j'ai comme amour pour toi, c'est pas comparable. C'est ça que Jésus veut dire. Mais vous me dites, oui, ok, d'accord, mais Luc n'écrit pas en araméen. Il écrit en grec. Et en grec, le comparatif existe. Et pourquoi est-ce qu'il l'utilise pas? Parce que Matthieu le fait. Quand Matthieu répercute ses conditions, il dit bien, hein, tu te préféreras. Je crois que Luc veut garder ce côté choquant de la vie chrétienne, du discipulat. Parce que suivre Jésus à vue humaine, il y a quelque chose quand même un peu dérangeant, un peu choquant. Jésus veut la suprématie de mon amour, l'aimer plus que tout. Hein, repensez au texte qu'on a lu au départ, tu aimeras Dieu tout ton cœur. Ça ne veut pas dire j'aime pas les autres. C'est pas du tout ça. C'est la marque du chrétien, l'amour de l'autre. Mais quand il est question de lui, alors là, on n'est plus dans le même, on joue plus dans la même cour. C'est ça qu'il est en train de dire. Entre toi et moi, c'est pas de la sympathie, hein. C'est pas juste être un adhérent. Je veux un amour démesuré, fou. Ça, c'est être disciple. Alors, quand j'entends ça, je me dis, waouh, j'ai besoin de réentendre régulièrement cette condition. Et pour certains, je sais que on a déjà abordé ce texte. Mais je crois que nous avons besoin de réentendre cela. Parce que si souvent, on peut, déjà rien qu'entre nous, pensons au foyer parfois, on peut offrir à l'autre quelque chose qui n'est plus cet amour rempli de primeur, rempli de ferveur, de service, de passion, de « Ah, c'était ton anniversaire, Julie ? Ah, c'est chaque année, toi ?» Hein, ou « Voilà, tu fais partie des meubles !» Mais non ! Et parfois, quelque part, peut-être, on peut être comme ça dans notre vie chrétienne. Oui, on aime Jésus, on a aimé Jésus. Parfois, quand on entend parler les anciens, ils ont plein de choses à nous apprendre. Ah oui, de mon temps. Oui, mais c'est, il y a eu des bonnes choses. Et maintenant, je risque peut-être de ne plus me soumettre à cette condition choquante. Oui, j'aime Jésus un peu, parfois beaucoup, mais j'aime d'autres choses, parfois un peu, beaucoup à la folie et de trop. Et ça, c'est le péril de la vie chrétienne. Le péril dans une société qui crée tellement d'objets de consommation, qui éveille notre amour. Souvent, quand je passe devant un showroom de voitures, je me dis, aujourd'hui, on en fait, ils sont magnifiques, des bâtiments, waouh! C'est juste pour vendre des tôles, hein. Est-ce qu'il y a besoin de que ça soit aussi luxueux? Mais c'est pour éveiller notre amour. Éveiller notre amour. Notre passion. Parce que nous sommes des êtres adorants, aimants. On fonctionne comme ça. Et Jésus dit, je vous ai fait comme ça. Mais c'est pour moi, premièrement. Parce que quand tu m'aimes, tu as la vie. Et je t'offre cet amour qui va te permettre d'aimer les autres. Avec Jésus, c'est pas de l'amitié. C'est pas une carte d'adhérent, c'est la carte de la passion. Jésus revendique dans ma vie une préférence totale vis-à-vis des autres personnes, vis-à-vis des personnes que j'aime le plus. Oui, c'est choquant. Mais c'est normal. Quand on va le voir, on va se dire, je suis sûr, on va se dire, je ne t'ai pas aimé assez. J'aurais dû être plus attentif et veiller à t'aimer plus que tout. Alors comment savoir, hein, parce que c'est difficile parfois de se dire, ok, comment évaluer notre amour? À quoi est-ce que tu penses le plus? Qu'est-ce que tu désires le plus? Ça va t'indiquer quelle est ton idole. Qu'est-ce que tu désires le plus? À quoi est-ce que tu penses le plus? Quand tu te lèves, tes premières pensées, elles vont pourquoi? Il y a en nous une capacité d'inertie, notre chair va faire en sorte que l'amour va se refroidir. Si on ne veille pas, c'est une question de temps, ça va se refroidir. Et on va ranger Jésus dans la collection des personnes que nous aimons. Et Jésus dit non. Moi, je veux que tu m'aimes par-dessus tout. Jésus disait, n'aimez pas le monde. Si quelqu'un aime le monde, il ne peut pas aimer le Père. Il y a des années à Sombreville, ils ont fait une photo aérienne par infrarouge du bâtiment communal pour détecter toutes les pertes de chaleur. Souvent, je pense à ça en me disant, j'ai besoin, Saint-Esprit, montre-moi où il y a des perles de chaleur. Il y a des perles de chaleur. Où ma passion, où il y a plus ce feu pour toi. Parlais dernièrement de quelqu'un qui revenait d'Afrique, il disait, il y a des gens qui vont au culte qui font 3 heures à pied. Pas sur du Ravel, hein. 3 heures, 4 heures pour être avec les frères et sœurs. Passion. Nous, s'il pleut, détectons vraiment les fissures, colmatons. Ne soyons pas... notre problème, c'est que nous, avec l'amour, on est à l'aise. Oh, ça va, je t'aime. On peut être hyper attentif dans des choses du comportement, alors que ce que le Seigneur veut, c'est d'abord le cœur. Est-ce que je peux dire aujourd'hui, si je fais une photo, waouh, je suis brûlant. Et Jésus dit, ça c'est une condition. Si pas, tu peux pas être mon disciple. Tu ne peux pas. J'ai besoin d'entendre ça. En tant que pasteur, on n'est pas à l'abri. Parfois, on peut être tellement braqué sur, il faut que ça tourne, il faut les enrichir, il faut les nourrir, et on en oublierait que d'abord, c'est passion pour lui. Arrêtons-nous. On ouvre une période de 20 jours de jeûne et prière. On va s'inscrire. Plusieurs sont déjà inscrits. On va vous demander de prendre 1 jour, 2 jours. Hein. On prendra des temps particuliers. Mais au cœur de cela, c'est pas de l'ascétisme, mais c'est des moments d'arrêt où je dis, oh là, attends, ça c'est vraiment sérieux. Ça c'est ma vie, ça. C'est ma vie. On vient de perdre des êtres chers et dans nos cœurs, souvent, on se dit, ah, on aurait pu encore plus aimer, plus le dire, ou plus encore avec le Seigneur. Plus encore avec le Seigneur. Si tu ne me préfères pas à tout, tu ne peux pas être mon disciple. C'est ferme, mais c'est tellement beau quand même. Dieu ne veut pas de nos mains, pas du tout. Il veut d'abord notre cœur. Il veut d'abord notre cœur. Moi, je sais que tout un temps, Anderlecht avait mon cœur. Bon, aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. Hein non. Hein oui, mais n'importe quoi. Parce que nos cœurs sont à prendre. Nos cœurs sont à prendre. La nourriture peut dire. Et aujourd'hui, c'est le culte quand même de la nourriture. Hein. Non, je ne fais pas la réunion de prière parce qu'il y a le meilleur pâtissier. Écoute, on s'en tape de ton pâtissier. Tu peux venir dans la présence du Seigneur. Attention, nos cœurs sont à prendre. Nos cœurs sont à prendre. Deuxième. Jésus dit, vous voulez être mes disciples, les amis? Celui qui refuse de porter sa croix pour marcher sur mes traces ne peut être mon disciple. Jésus dit, si tu ne portes pas ta croix pour marcher sur mes traces, tu ne peux pas être mon disciple. Porter sa croix. Là, de nouveau, on dit Jésus, on n'est déjà que 12. Continue comme ça. Il peut en rester beaucoup. Hein. Alors, on a quand même un peu de peine nous, de comprendre ça. J'ai regardé juste la fin, vraiment, parce que je me soigne, hein, de PSG Manchester. Juste la fin. Elle me dit, tu peux regarder 5 minutes. Non, c'est pas vrai. Ça n'a plus beaucoup d'intérêt. Quoi que ce soit, je regarderai quand même. Après, je me suis dit, en relisant mes notes, j'ai dit, où est-ce que j'ai vu des croix dernièrement? Je me suis dit, oh, regarde. Neymar, vous l'avez vu? Quand il rouspétait pour le penalty, il avait 2 belles boucles d'oreilles. 2 croix. Est-ce que c'est ça que Jésus veut dire? Hein, vous pouvez avoir un petit pendentif, un petit bracelet, boucle d'oreille, un petit tatouage. Hein, portez ma croix. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est ça que ça veut dire, quoi. Ça tombe. Je sais pas où il en est, Neymar. Hein, la croix ne veut plus dire grand chose. Et parfois, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, dans l'église, porter sa croix, ça veut plus dire grand chose. Peut-être, ta femme t'a dit un jour. Hein, tu sais ce qu'elle t'a dit. Hein, tu es vraiment ma croix. Hein? Est-ce que c'est ça que Jésus veut dire? Mais à l'époque de Jésus, quand on voyait quelqu'un passer avec une croix, Rassure-toi que c'était pas des boucles d'oreilles, hein. On se doutait, il avait fait une croix sur sa vie, c'était fini. Probablement qu'il avait commis un délit. En fait, on sait avec les empereurs romains qu'il fallait même pas commettre de délit. On savait que c'était fini. Et avant que ça ne soit fini, ça allait être l'agonie. C'était terminé. Symbole de souffrance physique et morale. Et Jésus est en train de dire, si tu ne portes pas ta croix, tu peux pas être mon disciple. Et un peu avant dans l'évangile, il poussera même le bouchon, si tu ne la portes pas tous les jours. Qu'est-ce que Jésus veut dire? Il y aurait beaucoup de choses pour expliquer, mais je vais peut-être à chaque fois donner une idée. Au moins un élément de compréhension. Je crois que Jésus est en train de dire à cette foule et à nous, tu veux me suivre? Puisque je croise ton regard, Chiara, tu veux me suivre? Sache qu'avec moi, ça ne sera pas toujours facile. Il y aura des souffrances. Tu vas perdre des amis. Peut-être on va te planter des couteaux dans le dos. Il y a des valeurs que tu vas maintenir et ça va être difficile. Ça, c'est le contrat entre toi et moi. Continue. Tu ne feras pas l'unanimité. Les vents vont souffler. Continue. Accepte de porter la croix. Et je crois que Jésus est en train de nous dire, écoutez, marche avec moi, va provoquer inévitablement des difficultés. Accepte les souffrances inhérentes à ton appel. Ne revois pas les conditions à la baisse en disant, ah oui, non, perte mon meilleur copain, copine, parce que j'ai dit que j'allais le dimanche à l'église, écoute, ça non. Je peux mettre plus dans l'offrande si tu veux, hein. Mais leur dire, accepte les souffrances inhérentes à ton appel. Il y en aura. Peut-être pour toi, tu ne vas pas accéder, je sais plusieurs dans l'église ont vécu ça, à un poste plus élevé dans ta société parce que tu veux marcher dans la droiture. Accepte ça, pas de souci. Ok, tu as les capacités pour. Tu mérites cette place. Mais parce que tu es intègre, tu ne l'auras pas. Accepte ça, ne magouille pas. Ne revois pas le contrat à la baisse. Et je dis, c'est un des grands soucis de l'Église, et je pense à la jeune génération, de revoir le contrat à la baisse. Qu'est-ce que je veux dire? Le danger, peut-être qu'avec le temps, on choisit les croix. Quand on n'essaye pas parfois même de bâtir des églises sans croix, où on ne parle jamais que de la grâce, que du pardon, et il faut le faire. Mais Jésus dit aussi, il y aura un chemin de persécution, de difficulté, où me suivre, marcher dans la droiture, selon ma volonté, ça sera à contre-courant. Non, je ne veux pas pour toi de concubinage. Même si aujourd'hui, c'est vraiment répandu. Enfin, les gens qui se marient, pour nous, les aînés, on a difficile à comprendre, mais pour les jeunes, aujourd'hui, tu te maries, c'est quoi ça? Que vous n'habitez pas déjà ensemble? T'as pas couché avec elle la première nuit? Non. Maintiens ça. Soyons prêts. Je pense que Jésus est en train de nous dire, ne déserte pas à la première difficulté. Ne déserte pas à la première difficulté. Va jusqu'au bout. Bon, j'avance et je termine. Après ça, Jésus utilise deux images qui vont dans le même sens. Un couple veut construire. Qu'est-ce qu'il doit faire? Monsieur est très fonceur. Madame, plus rationnelle, elle va d'abord faire les comptes. Qu'est-ce que monsieur doit faire? Présenter le projet. Et puis, ensemble, ils doivent examiner leurs finances. Est-ce qu'on peut acheter ce terrain? Est-ce qu'on peut bâtir? Et si on n'a pas assez, on ne le fait pas. Mais imaginez que je sois hyper fonceur. Non, ça va aller. Et on creuse. On met les fondations. Premier étage, et puis plus d'argent. Qu'est-ce que les gens vont dire? Quelle bêtise! C'est chouette ce bac à sable dans le quartier. Idem pour le roi, le rapport de force. Pourquoi est-ce que Jésus dit ça? pour nous décourager, parce que c'est vrai que dans les deux exemples, il faut pas construire, il faut pas aller à la guerre. Je crois pas que c'est ça que Jésus veut dire. La pointe de cette image, c'est, tu veux me suivre? Super. Assieds-toi et réfléchis. Tu me suis déjà? Assieds-toi et réfléchis. Continue. Aiguise ton sens de l'engagement. Mais bien sûr que Jésus veut qu'on soit disciple et qu'on vive l'éternité avec lui. Mais pas n'importe comment. Assieds-toi et réfléchis. C'est sérieux la vie chrétienne. On ne s'engage pas dans le mariage n'importe comment. C'est sérieux, c'est toute ma vie. Et plus encore avec Jésus, assieds-toi et réfléchis. Et puis un dernier verbe. Celui qui n'est pas prêt à abandonner tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Renoncer à tout. Condition pas très courante. Si tu veux me suivre, renonce à tout ce que tu possèdes. Une application parmi d'autres. Est-ce que ça veut dire que quand tu deviens chrétien, tu dois tout vendre, vivre dans la mendicité, dans la pauvreté, la précarité? Non. Je voudrais juste, à certains moments, Jésus peut le demander. Au jeune homme riche, il lui a dit, vends tout et suis-moi. Mais ce n'est pas une norme. On peut au moins dire que je n'ai plus à vivre pour les choses matérielles. Renonce, dans une société comme la nôtre, où tu es ce que tu as, Jésus dit, renonce à ça. Renonce à vivre pour les biens matériels. Et deuxièmement, et là pour nous les Belges, ça va faire mal, arrête de vivre comme un propriétaire. C'est là où Jésus veut nous emmener. Ce que tu as, ce que tu es, ne t'appartient pas, c'est moi qui te l'ai donné. Tu es un gestionnaire. Je te confie de l'argent, je te confie du temps, je te confie ton corps, je te confie le conjoint, je te confie cette maison. Pour mon royaume. Or, en nous, notre chair a développé une mentalité de propriétaire. De propriétaire. Il y a quelques années, un chrétien de l'église avait acheté une belle voiture. Et je ne lui avais rien dit. Il avait pris les devants en disant, tu sais, alors, je sais que c'est une belle voiture, mais c'est pour le Seigneur. Hein. C'est pour le Seigneur. Je dis, retenir cela. Quelques temps après, je dis, écoute, comme tu m'as dit que c'était pour le Seigneur, tel frère a besoin d'aller quelque part. Est-ce que tu peux lui prêter C'était plus le même visage. Et on est propriétaire. C'est ma voiture, c'est ma maison, c'est mon temps, c'est mon argent. C'est mon argent. C'est pas mon argent, c'est le sien. C'est son temps. C'est son corps. C'est son royaume. Et on est disciples de ce royaume. C'est pourquoi l'offrande est un très très bon moyen. Et on comprend qu'il était question de la dîme dans l'Ancien Testament. Et il est question aussi dans le Nouveau, où c'est l'occasion de dire, Seigneur, tout est à toi, mais je te le montre à travers mon offrande. Refuser d'être propriétaire. La dernière image est tellement forte aussi. Le sel, c'est excellent. C'est excellent. Manger sans sel, c'est tellement fade. Mais il faut que le sel garde son goût. L'Église, être disciple, c'est ça dont le monde a besoin. Merci beaucoup à Monsieur Magnette pour tout ce qu'il fait. C'est super. Mais le vrai sel, la vraie solution, c'est le peuple de Dieu. Le vrai sel qui purifie, qui donne du goût, c'est nous. Mais si nous perdons notre goût, et ça c'est l'enjeu, il est possible que l'Église soit inutile. C'est ça l'idée. Si le sel perd sa saveur, c'est terrible quand même. Une Église qui ne sert plus à rien. On avait été piqué il y a quelques années en disant, mais allez, si l'Église n'était plus là, est-ce que les gens pleureraient en disant, les gars, on a besoin de vous. Vous êtes notre lumière, vous êtes le sel. Ou bien, ce serait juste au JT à 19h58 pour dire, voilà, il y a quelques personnes qui ont disparu. Mais alors, la vie continue. On a besoin de retrouver tout son sel. Comment? En acceptant les conditions. En acceptant. Si tu y viens, rentre-y avec ces conditions. Puisque nous y sommes, continuons Gardez les mains sur le volant et redressez là où il faut redresser. Je dois l'aimer. Il est plus qu'aimable, il est adorable. Seigneur, peut-être, fais-moi voir davantage ta face. Fais reluire ta face sur moi pour que je comprenne, que je vois combien je suis fou de ne pas t'aimer. Aide-moi, Seigneur, aussi à accepter les choses difficiles. C'est Paul qui dit, s'il n'a pas épargné son propre fils, il n'ajoute pas, mais moi j'aimerais l'ajouter, est-ce que tu penses qu'il va t'épargner? S'il a donné Jésus pour notre salut, est-ce que vous pensez qu'il ne va pas aussi de temps en temps dire, écoute, non, je ne t'épargne pas cette épreuve, vas-y, tu vas reluire, tu vas éclater de ma gloire dans cette épreuve. Étienne était lapidé, et pourtant le texte dit, son visage était comme le visage d'un ange. Dis Jésus, tu pousses pas là. Ça fait partie des diacres. Ils sont déjà pas très nombreux. Laisse-le vivre. Il y a une telle sagesse. Laisse-moi faire. Tiens ferme. Tiens ferme. Vis pas pour toi. Espoir, la semaine passée, les musiciens reviennent. Les musiciens reviennent, on termine. Parlez de la volonté de Dieu. Au cœur de notre vie, c'est la volonté de Dieu. Et pourtant, on voit les chrétiens parfois prendre tellement de décisions importantes sans se soucier de la volonté de Dieu. Et après, on se plaint qu'on va à la cata, que... Est-ce que nous nous sommes souciés que l'itinéraire, c'était bien la volonté de Dieu? Mais c'est ça le plus important pour nous. Jésus disait, ça servira à quoi de gagner le monde entier? Si t'as pas fait la volonté de Dieu, il y a un jour, je pourrais pas bluffer, mes amis. Un jour, Jésus veut louer, veut honorer la vie des disciples qui auront marché dans sa volonté. Cherche sa volonté. Acceptons les conditions et nous allons redevenir un sel à Guérant qui vont nous envier. Et wow, quelle saveur, quelle saveur. Levons-nous ensemble, on va encore chanter un chant. Je vais prier avant pour que nous puissions nous consacrer. Seigneur Jésus, nous sommes là devant toi. Et nous voulons plus de toi. Nous voulons marcher vraiment dans l'amour et l'obéissance de ton nom. Dans une telle intimité, nous voulons t'entendre, accomplir ta volonté. Seigneur, nous voulons renoncer à tout ce que tu ne veux pas dans nos vies, parce que c'est bon Seigneur. Il y a peut-être des choses qui tellement alourdissent notre vie, qui sont inutiles. Et quand tu nous en libères Seigneur, quelle légèreté. Parle au cœur de chacun, parle au cœur de chacun. Développe en nous cette mentalité militaire Seigneur. J'accepte de souffrir, de combattre le bon combat de la foi pour ton honneur, pour ta volonté, pour ta gloire, pour le salut de ceux qui sont autour de moi. Restons quelques instants dans le silence et répondons au Seigneur. Je crois vraiment que c'est un bon moment que nous allons prendre ensemble dans le restant de ce mois de mars pour, quand nous sommes ensemble, prier davantage, chercher sa face. C'est des sujets tout à fait particuliers. Vous dire que les vendredis où il n'y aura pas plénitude, à 7h, à 19h, on sera quand même ici dans la prière pour un moment. Les PEP, on priera davantage, le mardi aussi. On aimerait aussi que l'Église soit dans le jeûne et la prière. Plusieurs se sont déjà inscrits. Alors, on va pas mendier, on va pas se mettre à une table juste devant la sortie pour que vous puissiez pas ne pas manquer. On se tiendra ici avec Laurence, peut-être avec la grille, vous pouvez vous inscrire, on vous donnera les sujets aussi. Comment montrons-nous sérieux. Je crois, on a déjà pris des moments de jeûne. J'ai vraiment cette conviction ici que ça sera un temps vraiment particulier. Le Seigneur veut nous dire des choses. Je le crois vraiment. Je le crois vraiment. On va chanter un dernier chant qui dit, est-ce vrai aujourd'hui quand l'Église remplit les conditions que des choses se passent ?